Radio Café Philo, l'émission qui réveille le tigre qui est en toi. www.libradio.org.
Bienvenue à tout le monde pour Libre Radio. Nous allons parler donc de prostitution. Nous allons parler avec Claudette Plumet, avec Malika Derrieux, avec Sylvie Cachin et David
Corderéal.
Voilà, ici présent donc au 8 rue Lissignol.
Voilà, au Bol de Saint-Gervais.
Voilà, Bol de Saint-Gervais qui nous a même habilité de nous recevoir. Donc on parle d'une exposition de photos concernant Claudette Plumet qui va nous en dire plus. À toi.
Bon, je me présente, Claudette Plumet, travailleuse du sexe, présidente de la DTS, Association de défense des travailleuses du sexe, et je remercie Libre Radio, comme d'habitude, de nous inviter à chaque fois qu'on a un événement et de pouvoir participer et de pouvoir, pouvoir présenter ce que la DTS fait. Et quels sont les buts de la DTS, c'est-à-dire de faire connaître le travail du sexe, qui est un travail social et un travail social et d'utilité publique. Et donc nous avons organisé déjà pas mal de cafés philo et cette fois nous avons fait une exposition de faite par Malika Godin, qui est reporter photographe et qui prendra la parole tout à l'heure. Voilà, et je remercie Libre Radio donc de nous donner la parole. Et moi, personnellement, je tiens à remercier donc Libre Radio. Je remercie en particulier David, qui est membre de la DTS, qui a organisé en grande partie avec Malika cette exposition. Je crois que c'est une exposition qui a eu un certain succès, d'après, en tous les cas, dû à la qualité de notre photographe. Voilà. Et ensuite, je remercie aussi Sylvie Cachin, qui m'a permis personnellement de pouvoir m'éclore et de pouvoir parler à visage découvert, ce qui est très difficile pour une travailleuse du sexe, de ce qu'est le travail du sexe et tout un travail d'utilité publique et sociale. Voilà. Donc je crois que j'ai pas oublié personne, à part que de dire que Philippe est un membre fondateur aussi de la DTS et que je remercie Libre Radio particulièrement ce soir parce qu'avec Libre Radio, ça nous a permis de nous faire connaître, d'être éclos, de prendre notre envol et la DTS doit énormément à Libre Radio. Voilà, personnellement, je laisse la parole à Philippe.
Voilà, alors justement, là, Malika. Cette exposition, d'où est venue l'idée de faire une exposition sur de photos sur une prostituée, quel était le but et quel est maintenant l'avenir ou...
Alors le projet, il est né il y a déjà plusieurs années. Quand j'ai rencontré Claudette, j'habitais en Suisse assez brièvement. Mais je me suis tout de suite interrogée sur la différence de législation qu'il y a par rapport à la prostitution entre la Suisse et la France, puisque là où j'habitais et où j'habite encore maintenant, la prostitution est illégale, alors qu'en Suisse, elle est toujours légale, ce qui m'a beaucoup interrogée. J'ai contacté des associations pour essayer de comprendre finalement les raisons de ces différences et surtout essayer de savoir ce qui était le plus bénéfique aux travailleurs et travailleuses du sexe sur le terrain. Et via différentes associations, j'ai rencontré Claudette qui a accepté de travailler avec moi et de montrer un peu la réalité de sa vie quotidienne. Parce que assez rapidement, je me suis rendu compte en rencontrant des travailleuses du sexe qu'il y a autant de prostitution qu'il y a de prostituées et qu'il est impossible de raconter l'histoire de la prostitution en restant sur des généralités. Et j'ai essayé plutôt de raconter une histoire en n'essayant pas de dire que c'est une vérité universelle, en n'essayant pas de dire que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Mais par contre, la vie de Claudette et sa manière de vivre ce métier est aussi une partie de cette réalité assez complexe et une qu'il faut prendre en compte. Puisque en France, souvent, la parole des travailleurs du sexe est niée. Et en particulier, quand ils disent qu'ils vivent leur métier de manière assez épanouie, on estime que c'est faux, on estime qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, quand bien même ils parlent de leur propre vie, ce que je trouve assez dérangeant. Après, le reportage et l'exposition essayent de montrer plus que seulement le métier de Claudette, parce que souvent la prostitution a tendance à, quand on dit qu'on pratique ce métier, les personnes ont tendance à nous résumer à ça, et ce qui n'est pas quelque chose qu'on fait dans les autres professions. Et donc, on a travaillé avec... Enfin, Claudette m'a laissé photographier toute sa vie de famille, sa vie intime, ses passions, ses joies, ses malheurs. Et son métier s'harmonise dans cet ensemble sans le définir. Ce qui est vraiment ce que j'ai essayé de montrer dans le reportage. Et l'exposition est un moyen, comme des publications ou comme la création du livre, de montrer cet aspect-là de cette question, de la question de la prostitution, et de permettre à chacun du coup de s'exprimer et puis d'essayer de complexifier un peu les clichés qu'on a souvent par rapport à ce métier.
Pour nos auditeurs qui malheureusement ne peuvent pas voir les photos, comment tu pourrais les décrire, ce qu'elles représentent, sans les décrire précisément, mais que l'auditeur puisse se faire à peu près une image de ce que ces photos représentent.
J'espère que sur les photos, on peut voir beaucoup de douceur, parce que quand moi j'ai rencontré Claudette, donc, qui est non seulement prostituée, mais qui est aussi intersexe, il y avait beaucoup de... ça semble assez sensationnel, cette vie, quand on l'a décrit. Et quand on a commencé à se connaître, j'ai commencé à faire partie de son quotidien, je me suis vite rendu compte que, en fait, ce qui était absolument touchant et ce que j'ai voulu communiquer, c'est le grand naturel et la grande douceur avec laquelle s'exprime son quotidien, avec lequel s'exprime son quotidien, et finalement de pas forcément faire ressortir ce côté extraordinaire, parce que les gens imaginent qu'il y a du sensationnel, alors qu'en fait, au contraire, la force de Claudette et de son entourage, d'ailleurs pas seulement d'elle, c'est de le bonheur et la douceur le naturel avec laquelle ces situations sont vécues. Et c'est ça que j'espère que c'est en tout cas que les photos réussissent à montrer ça. Et je pense que la dernière chose qu'on voit en regardant les images, normalement, c'est tout ce qu'on peut s'attendre à voir quand on pense prostitution et quand on pense thématique de genre. Parce que justement, je cherchais de rester loin de ces images un petit peu convenues qui existent déjà dans l'imaginaire et qui ne représentent pas une réalité individuelle.
Mis à part ça, est-ce qu'il y a un calendrier, un avenir pour ces photos? Je penserais peut-être à genre d'exposition permanente ou semi-permanente qui serait comme dans une galerie un petit peu à disposition, où les gens ne pourraient que regarder les photos et se faire leur propre idée.
On ne ferme jamais une porte avant de pouvoir bien en parler ensemble. Et ce que je voulais dire, c'est que le public peut déjà se rendre compte de cette exposition en se mettant en relation avec Malika Godin ou avec moi-même ou la DTS pour pouvoir... pour une modique somme de 30 francs suisses, de pouvoir acheter le livre, qui est un magnifique livre, avec des textes magnifiques de Malika, qui raconte bien ma vie, qui raconte bien la réalité du travail du sexe.
Et où est-ce qu'on peut commander ce livre?
Alors,
pour les gens qui écoutent.
Je pense que le mieux, c'est de me contacter via mon site internet, donc, qui est malikagodindelrieux.com.
Sinon, à la DTS, auprès de moi, auprès de Claudette Plumet, et puis on passera au même Libre Radio, quoi. Et on passera le message à Malika, de façon qu'elle puisse faire parvenir ses livres. Et je pense que c'est, vu qu'on a un certain succès à cette exposition, tout le monde a trouvé ces photos assez extraordinaires, magnifiques, et je pense qu'en achetant ce livre, on peut déjà se faire une certaine vision du travail qu'a voulu faire connaître à la population Malika, a voulu faire connaître à la population tout à fait lambda.
Ça c'est peut-être pour la photo, et Claudette a fait peut-être aussi autre chose, du cinéma par exemple. Sylvie Cachin, tu peux nous en dire plus ?
Mais Claudette, elle ne fait pas du cinéma, elle est au carnaval tous les jours, comme elle aime à dire. Claudette, c'est la personne la plus authentique, une des personnes les plus authentiques que j'ai pu rencontrer. Et si on parle de prostitution, donc juste pour contextualiser, moi j'ai connu Claudette en 2004, étant étudiante en cinéma, au Paqui, dans un bar. C'était une personne très ouverte que j'ai rencontrée à l'heure de l'apéro et qui est devenue rapidement une amie. Et j'ai vu en elle un personnage d'abord intrigant, où la question de genre, d'identité de genre m'interrogeait. Et il était évident que son travail au Paqui était de la prostitution. Mais malgré le regard un petit peu jugeant que j'avais sur le métier à l'époque, en 2004, en voyant Claudette, je n'ai pas du tout été entravée par quelconque obstacle vis-à-vis d'elle à cause de son métier, quoi. C'est d'abord l'humanité, la jovialité et l'ouverture que j'avais chez Claudette. Voilà. Ensuite... les années ont passé, et puis j'avais envie de m'interroger sur cette personne. Et en m'interrogeant sur cette personne, il m'a semblé essentiel d'aller voir ce qui occupait sa vie. Et ce qui occupait sa vie, c'était la prostitution. Donc le film, qui d'abord était un peu une interrogation sur le genre, s'est rapidement ouvert sur une interrogation sur le métier de la prostitution. Et comme disait Malika, je me suis vite rendu compte qu'il n'y a pas la prostitution. Il y a autant de formes de prostitution que de prostituées. Enfin, il y a de multiples formes de prostitution, c'est évident. Et puis surtout, pour aborder tous ces sujets qui ne sont pas, abordés à l'école ou dans les familles conformes, tous ces sujets qu'on peut uniquement percevoir à travers de la fiction, des romans ou des médias... Il m'a fallu, moi, faire tomber plein de filtres, d'a priori, d'images que j'avais. Et il m'a fallu surtout avancer sans avoir cette petite lanterne qui est le moralisme, avec lequel j'ai été construite dans la société suisse occidentale, catholico-protestante. Donc, c'est en laissant de côté mon moralisme, mon jugement... En faisant tomber activement mes filtres d'appréhension des réalités, que j'ai approché Claudette et je lui ai laissé parler. Voilà. Et le film a été est autant un sujet sur la question de genre que sur la question de la prostitution vécue par Claudette à travers ses multiples chapitres dans sa vie. Et le film a été montré au Festival du film suisse, a été montré à Locarno, au Porn Film Festival à Berlin, a été montré au Brésil, à Genève, à l'usine en première, à l'avant-première, à Lausanne, en Slovénie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été beaucoup montré non seulement dans des films à thématique généraliste, mais a été aussi montré dans des films à thématique LGBT, et que au sein des communautés gays, lesbiennes, transsexuelles, bi, queer, etc., les gens se sont interrogés se sont encore questionnés sur leur propre cloisonnement. En voyant Claudette qui est intersexuée et puis qui vit qui s'arrange avec ses deux identités en étant mari, grand-papa et femme de ressenti et qui vit comme femme et comme prostituée, qui assume toutes ses vies. Les gens de la communauté LGBT, ça les a... ça a bousculé leurs pensées et c'était formidable. Il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup d'interrogations.
Voilà. Est-ce qu'on a l'impression, parce que moi, quand je parle de prostitution, les gens ont comme une sorte de réticence ou une sorte d'appréhension. Ils perçoivent la prostitution comme la prostituée, comme étant une personne qui fait pratiquement comme partie, on va dire, des meubles dans une rue où se pratique la prostituée, la prostitution. La prostituée, ils ont une image, c'est appuyé contre un mur avec une jupe courte en décolleté qui harangue le client, le passant, et qui, à côté de ça, ont de la peine à s'imaginer que ces personnes peuvent avoir des enfants, peuvent avoir une vie de famille normale. Quand on entend souvent les réflexions « Oui, mais je ne veux pas qu'il y ait de salon dans mon immeuble parce que ça dérange, vous comprenez, une prostituée, j'ai mes enfants. » Ben, sauf que, ma foi, vos enfants vont peut-être avec des enfants de prostituées à l'école. Quoi. Et ça, j'ai l'impression que les gens ont encore de la peine à faire ce pas et à comprendre ce fait-là que... Une prostituée, ben, la vie normale, une vie, elle va faire ses courses comme tout le monde, elle va avec ses enfants en course quand elle amène ses enfants à l'école, etc. Et forcément, les gens sont amenés à croiser des prostituées, que ce soit dans n'importe quel quartier, n'importe quelle situation, quoi, en réalité.
Mais c'est justement ça que j'ai ressenti énormément tous ces derniers temps auprès des gens qui n'arrivent pas à se rendre compte qu'une travailleuse du sexe, c'est une personne qui a pu faire des études, qui peut avoir un certain comportement tout à fait traditionnel comme toute autre personne civile, et qui n'est pas stéréotypée tous les jours de sa vie comme une travailleuse du sexe. Elle a une vie privée, elle a des enfants, elle a un mari, elle a fait des études suite à certaines circonstances de la vie, soit financières, soit perte du partenaire, etc., il lui reste plus qu'une seule chose, c'est peut-être de pouvoir, pour survivre, d'entrer dans la prostitution. Et il ne faut pas croire que tout le monde vit mal la prostitution. C'est justement ça la différence, et c'est ça l'accent qu'on essaie de mettre à la DTS, c'est qu'il faut faire une différence entre la prostitution forcée, qui est de l'esclavage, ni plus ni moins, et la prostitution libre. Ce n'est jamais un choix de rentrer dans la prostitution, mais ça peut être un choix dans le choix.
Dans le non-choix,
du coup. Dans différents choix. Ouais. Et moi, personnellement, si je suis rentrée là, si j'ai repris, quand je suis arrivée il y a 20 ans à Genève, c'est que j'ai été, je ne m'en cache pas, activiste pour le Jura. Je me suis fait faire condamner... et ensuite blanchi, mais c'était trop tard, à 15 mois de pénitencier, dont j'en ai fait 10 pour, et 5 de remise pour bonne conduite. Et quand je suis sorti, la société m'a fermé toutes les portes. Et quand j'ai voulu demander de l'aide à Genève, on m'a répondu textuellement, « Ah, si vous étiez une toxicomane, on aurait des structures pour vous aider. Mais en étant terroriste, on ne peut pas vous aider. » Voilà. Donc, ensuite de quoi j'ai été... le jugement a été cassé, mais c'était trop tard. Ma vie était détruite. J'avais un bureau d'architecture. C'était trop tard à 50 et quelques années pour me reconstruire. Et il ne me restait plus qu'une chose, c'était la prostitution. Donc, avant de juger les prostituées, ce sont des fainéantes, ce sont des filles qui n'ont pas fait d'études, ce sont des drogués, etc. Il faudrait bien connaître ce qu'est la prostitution. Et c'est justement si j'ai commencé à militer, parce que j'ai jamais rencontré de difficultés, ou très peu, dans ma vie, tant que je n'ai pas été médiatisée. Et le jour où j'ai été médiatisée, les ennuis ont commencé. Et là, personnellement, si je suis là aujourd'hui, si j'ai une vie heureuse, Eh bien, c'est grâce à Sylvie Cachin qu'a fait ce film Claudette. Parce qu'elle n'a pas fait un film sur Claudette. Elle a fait un film avec Claudette. Et ça, je la remercierai toujours. Donc elle m'a laissé la possibilité de m'exprimer, la possibilité d'être vrai, d'être moi-même. Ce qui au départ peut-être semblait un petit peu difficile ou bizarre, mais avec le temps qu'on a travaillé, quand même sur 2 ans je crois, quelque chose comme ça, on a appris à se connaître et puis à s'apprécier, et pour moi ça m'a ouvert les tas de portes. Alors après le film, eh ben, j'ai connu aussi Malika. Malika, ça a été la même chose. Malika m'a fait connaître ses parents, j'ai assisté à son mariage. On n'invite pas tous les jours une travailleuse du sexe au mariage et on ne lui permet pas de pouvoir s'exprimer librement lors du mariage en public. C'est un événement. Et ça m'a permis, moi, j'ai eu la réflexion à la sortie du mariage de me dire, mais c'est la première fois, Claudette, que tu parles de ton métier, de ton genre, non pas dans des événements qui sont consacrés à ça, mais dans un événement tout à fait traditionnel, un mariage. Et de pouvoir dire qui on est dans un mariage, je crois que ça, c'est grâce à Malika et grâce à l'éducation et à la gentillesse qu'a eu ses parents d'élever Malika dans cette philosophie-là. Et ensuite, bon, ben, y a eu la campagne dernièrement sur les LGBTI qui m'a aussi ouvert les
portes. Les aînés LGBTI que la ville
que la ville de Genève
photographiée, affichée voilà. dans les rues de Genève.
Et là je me suis rendu compte que quand même j'étais drôlement connu à Genève et je m'étais pas rendu compte jusque là du monde que je connaissais et du monde qui me connaissait. Mais je dois dire, les portes qui m'ont été ouvertes...
Mais il est bien évident ce que tu dis, moi, quand je t'ai rencontré d'ailleurs en 1999, pas en 2004, c'est en 2004 que j'ai commencé à faire le film.
J'allais le dire, parce ouais. que moi, je t'ai connu bien avant.
Oui, c'est ça.
Et en 99, en 2004, ça paraissait bizarre. Parce
mais
que
Claudette, t'étais... comment tu... Entre guillemets, de façon plus caricaturale, tu te cachais, tu restais dans les milieux tout à fait fermés. Tu te cachais dans les bars et tu n'aimais pas sortir de ton quartier où tu travaillais.
À l'heure actuelle, je ne connais encore pas Genève. J'y étais 20 ans.
Oui, bah, ça a bien changé parce que t'as voyagé le monde aujourd'hui en étant très fière de tout ce que tu es. Mais c'est pour dire à quel point les médias, parce qu'on parle d'expo photo, on parle du film, c'est aussi... un outil formidable pour aller à la rencontre de gens qui ne connaissent pas et qui sont juste pétris de clichés, de jugements.
Oui, mais justement, en vivant, si tu veux appeler ça reclus, c'était simplement les bars, je ne travaillais pas au trottoir, je travaillais sur annonces. Hein. Mmh. C'était une période dans laquelle on arrivait encore à faire 12 000 ou 15 000 francs par mois en travaillant. La prostitution, c'était valable. C'est pas comme maintenant qu'il se fait des passes, des fellations pour 5 euros et des passes pour 20 euros, pour 20 francs suisses. Donc, j'avais pas ces problèmes de rejet, aussi bien sur le genre que sur la prostitution, parce que j'étais dans mon milieu fermé. Mmh. Et grâce à toi, malgré tout, on pourrait dire à un certain moment, à cause de toi, que j'ai eu certains rejets et certains regards négatifs où j'ai été rejeté, c'est parce que je n'étais pas connu. Et mon hermaphrodisme, il est passé toujours comme il faut, comme ma prostitution. Moi, le vendredi soir, j'arrêtais et je revenais le lundi après-midi pour travailler. Jusque-là, le week-end, j'avais ma vie de famille traditionnelle. Donc, je n'ai pas souffert.
Souffert, mais tu n'étais pas libre d'être complètement toi-même et surtout tu n'étais pas libre, tu n'étais pas à l'aise en dehors
de mon noyau familial.
C'est peut-être aussi grâce à Sylvie qui a déclenché effectivement en réalisant ce film que tu as pu.
Ah, je l'ai dit!
Enfin. t'épanouir, si je puis dire ainsi, mais aussi fondamentalement grâce à toi, parce que tu étais aussi, c'est une dynamique, c'est pas une chose que Sylvie Cachin, elle était là, c'est une rencontre fortuite et ça a créé une belle rencontre, et puis ça a permis à, j'imagine aussi à Sylvie de s'épanouir, peut-être il y a eu un échange entre vous, donc
si je peux moi je savais pas où j'allais, hein. Savais pas où j'allais, j'explorais les choses. Moi j'ai découvert un monde, et puis Claudette en ayant le regard de la caméra, en voyant qu'elle était intéressante, et que pendant le processus du film et après le film, quand le film a été montré, c'est renforcé. Mais moi j'ai découvert un monde, moi je savais pas ce que j'allais découvrir, et puis j'ai fait un film surtout parce que la vie de Claudette est complexe, donc ça m'a pris beaucoup de temps et de travail pour mettre ça en ordre, pour en faire une structure.
Il y a une trace qui reste de ça.
Claire d'histoire.
Juste pour les auditeurs, je pense que c'est important que David, tu te présentes un petit peu sommairement et que peut-être nous en dire plus, quel est ton intérêt par rapport à la prostitution, comment tu t'y es intéressé. Et ton parcours, on va dire, bon voilà, il y a Spazi, il y a l'ETS.
Bien volontiers. Maintenant, c'est des questions auxquelles je ne pourrais apporter une réponse fermée. C'est compliqué de dire quel est mon intérêt donc pour la
motivation
du sexe, parce que ça appelle plein de facteurs. Je vais essayer de résumer de mon mieux. Moi j'ai un parcours un peu aussi atypique à ma façon. J'étais pas un très bon écolier. Je me suis refait sur le tard en tant qu'adulte. J'ai fait des cours du soir et puis là je suis j'ai recommencé à 20 ans. J'étais serrurier, donc ça fait un point commun avec Claudette qui connaît la métallurgie aussi. Donc à l'âge de 17 ans, je faisais de la serrurerie sur le tas et je me suis spécialisé dans la soudure rôtie, comme Claudette connaît bien cette technique de soudure. Et après, j'avais aucun avenir devant moi à cette époque-là. Et du coup, je me posais la question, j'ai fait une psychothérapie, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de ma vie. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aussi permis de me questionner moi-même dans ma vie. Donc je suis aussi gay, j'ai vécu avec des personnes qui étaient séropositives et qui m'ont permis aussi de me questionner pas mal sur certaines questions. Après, le travail du sexe, pour moi, c'est pas ça qui bon, dans ma nature, je suis quelqu'un, j'ai envie de dire, de...
Curieux ?
Non, curieux, oui, peut-être, effectivement, c'était souvent marqué dans les cartes scolaires, David est bavard et curieux. C'était quelque chose, j'ai envie de dire, qui peut-être sort pour les autres, mais pas pour moi, mais j'ai envie de dire, je suis quelqu'un, quand je vois quelqu'un, je vois un être humain, je vois pas, je colle pas forcément une étiquette... oui, bien sûr, j'ai les yeux, je vois, il est noir, il est blanc, il est gay, il a les habitudes. Mais c'est pas ce que je vais, c'est pas ce qui importe pour moi. Et en habitant au Paquis pendant 18 ans, presque 18 ans, on va dire, j'ai habité au Paquis, j'avais l'habitude d'aller aux épiceries thaï, j'achetais des légumes et puis du foie des filles thaï, parce que c'est vrai que j'ai vu aussi la prostitution évoluer. J'ai eu un magasin au Paquis, une période de meubles, j'avais comme cliente des filles qui travaillaient dans la rue, qui venaient, et puis elles s'achetaient des cadeaux pour leur amis, leurs collègues de rue. Donc c'était vraiment pour moi, je voyais pas leur travail comme quelque chose, ou leur pratique professionnelle comme quelque chose qui les définissait, en fait. Donc pour moi, c'est des êtres humains, tout simplement. Et peu importe ce qu'elles font, moi, c'était de parler juste avec des personnes. Et effectivement, là-dessus, je passais des excellents moments. Je revenais de l'épicerie des fois avec des produits thaï, et les thaï m'abordaient. Mais dis, tu vas acheter du thaï, tu vas cuisiner, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et puis, je disais, je vais faire un poulet curry, un pad thaï. Et puis, moi, j'ai toujours été facile de contact, en règle générale. Et puis, je m'en fous, en gros, de ce que font les personnes. Elles ont le droit de faire ce qu'elles font, ça les regarde. Et je pars de ce compte. Plutôt, en fait, mon approche envers le travail du sexe, c'est celle-là, déjà, d'une certaine façon. D'une autre façon, ben, en me refaisant, j'ai fait sciences de l'éducation, un bachelor. Là, j'arrive sur un master en formation des adultes. Et je travaille sur, moi, sur l'intégration des migrants. Et il y a des questionnements, enfin, dans cette formation, il y a tout un courant qui m'intéresse particulièrement, c'est les parcours de vie, les histoires de vie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne bifurque ou effectue une transition entre un métier et un autre, par exemple, dans la formation? Ben, il y a des histoires qui sont passionnantes quand on se rend compte. Et pour moi, la vie de Claudette, c'est pour moi aussi qui m'intéresse aux histoires de vie, comme on dit dans le champ de la formation des adultes, ben, un parcours qui est juste passionnant. Et ce que j'admire, une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est effectivement la façon entre, qui a déjà été dit ce soir par mes collègues ici présents, la façon qu'elle ait une vie de famille, qu'elle ait eu plusieurs métiers, qu'elle a dû en voir des choses pas toujours faciles, je pense, et la manière qu'elle a de s'assumer, de gérer toutes ces formes de vie, quelque part, privées, professionnelles. J'ai l'impression qu'elle le fait avec brio, et c'est une des choses que j'admire chez Claudette. Et par rapport à l'expo, ben, pour revenir à l'expo, je trouve que, comme ça a été dit, effectivement, ce qui ressort des photos, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très poétique dans la manière que ça a été présenté, en tout cas dans ces locaux. C'est vraiment, effectivement, on ressent vraiment une poésie, dans le sens d'une douceur qui s'émane de ces photos. Alors que si on tombe, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, dans quelque chose, dans les idées reçues qu'ont les gens par rapport à la prostitution, qui peuvent imaginer quelque chose de glauque ou de lourd ou pesant.
De mal vécu.
Voilà, ou juste.
Ou au contraire, de sensationnel et de complètement glamour. Alors, qui est à l'inverse, en fait, je pense que la représentation des gens sont souvent dans un extrême, soit un extrême positif,
oui.
Qui nie certaines difficultés de terrain, soit un extrême négatif qui. qui va aussi à l'encontre, de toute manière, toute ta vie qui manque un peu de nuance risque de se gourer.
Voilà.
Mais moi, j'ai entendu des discours sur la prostitution qui vont souvent d'un extrême à l'autre.
C'est sûr, ça fait vendre. Quelque part, ça fait vendre. Hein.
Oui.
C'est médiatiquement parlant, j'ai envie de dire. Mmh. C'est un sujet... Parce que juste pour situer aussi, je travaille pour Aspasie et on en a des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et des étudiants qui sont intéressés par ces questions, qui veulent faire des travaux là-dessus, enfin des travaux là-dessus, enfin voilà.
Je peux rebondir, oui. Tu dis Aspasie, c'est l'association...
À Genève.
Oui, tu peux...
Aspasie, donc tu
moi,
dis...
Plus, ce que c'est,
mais... c'est pas un acronyme, hein.
Oui, Aspasie, bah, d'accord. Mais c'est une association qui défend les droits des travailleurs du sexe.
Le droit des travailleuses à la base du sexe et des travailleurs du sexe.
Alors,
oui.
Pourquoi vous avez créé l'ADTS, qui est l'association des travailleurs du sexe?
Je ne suis pas membre fondateur, donc je ne vais pas prendre la parole pour cette question. Mm-hmm. Mais Aspasie, donc, elle existe depuis 1982 et elle a été fondée par des travailleuses du sexe. Maintenant, je vais laisser peut-être la parole aux personnes qui ont quelque chose à dire et qui pourront mieux parler là-dessus.
Mais c'est pour ça que j'interviens, parce qu'on se pose la question, non. Et puis il y a certainement quelque chose de fondamental derrière.
On laisse la parole à Claudette.
Excuse-moi. Aspasie donc, a été créée en 1982. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée du sida. C'est l'arrivée des maladies sexuellement transmissibles. Et là, il y a un vent qui s'est créé en disant « Ah, mais avec cette maladie, ça va être toutes les travailleuses du sexe qui vont propager cette maladie sexuellement. » Et là, il y a eu une réflexion qui a été faite par une grande dame avec d'autres amis c'est Chrysilidis. D'abord, Aspasie, qu'on crée Aspasie. Et Aspasie, qu'est-ce qu'Aspasie? Qui est Aspasie? Aspasie, c'est une hépatiticienne que Platon connaissait, etc., et qui a qui était de haut niveau et qui était donc travailleuse du sexe. Donc on a repris cette personne comme modèle.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce
qui alors on a créé Aspasie en 82 et avec différentes facettes, c'est-à-dire que de différents moments avec différentes structures et différents événements et passés depuis 1982 à 2018.
Claudette, ce qu'on a envie de savoir surtout, c'est en quoi l'ADTS, l'Association des travailleurs du sexe, se différencie d'Aspasie aujourd'hui.
D'accord, j'avais pas compris la question. D'accord. Donc, Aspasie, dont je suis maintenant coprésidente, est tout à fait différente de l'ADTS. Personnellement, il y a 20 ans que je suis au comité d'Aspasie, donc je connais très très bien Aspasie. Et moi, je me suis posé la question, finalement, nous sommes dans une société helvétique qui reconnaît le travail du sexe, mais que le public ne connaît pas ce qu'est le travail du sexe. Donc Aspasie, si vous voulez, a pour mission de s'occuper des dames qui ont des problèmes, soit d'impôts, soit de santé, soit de trouver un logement, ou bien pour faire leur déclaration d'impôts, etc. Et c'est une aide de donner les préservatifs, d'avoir le bus à Boulevard. Voilà. Mm-hmm. Et moi, je me suis posé la question, mais attention, on a un vent anti-prostitution. On le voit, les résultats en France. Mais ce vent anti-prostitution, il part depuis la société bien-pensante des évangélistes d'Amérique. Ça part depuis Rockefeller, qui a mis des fortunes pour arriver à stigmatiser et faire rejeter la prostitution. D'où la Suède, d'où la France, d'où maintenant l'Allemagne, où on en est plus sûr de pouvoir continuer à garder le travail du sexe, hein, et de ne pas passer comme la France. Il y a l'Angleterre qui a les gros problèmes, l'Écosse, le Pays de Galles, etc. Et moi, je me suis dit, mais le jour où ces évangélistes essayeront de faire un mouvement anti-prostitutionnel, ça se passe comment en Suisse? Ben, c'est la population qui va voter. Et si la population ne sait pas ce qu'est la prostitution libre par rapport à la forcée, eh ben, tout le monde votera, oui, c'est toutes des pauvres, des malheureuses, etc.
Et c'est là que s'inscrit le rôle de la DTS?
De la DTS, donc de faire connaître au public suisse et principalement à Genève, déjà pour commencer, de dire voilà ce qu'est la prostitution libre. Je suis libre de mon corps et de mes pensées. Donc tant que je travaille, la prostitution pour moi, tant qu'elle est entre personnes majeures
consentantes,
ça ne regarde personne. Ça ne regarde pas si on est gay, si on est lesbienne, si on est ceci ou cela. Tant que c'est fait dans le respect de la moralité majeure et consentante, ça ne regarde plus personne. Donc le but de la DTS, c'est justement de faire connaître au public ce qu'est la prostitution.
La prostitution.
Pourquoi qu'on y rentre, comment qu'on
est... Fier, assumé.
Voilà. Voilà. Parce que quand j'ai des colloques que je me trouve en face d'abolitionnistes, je les laisse bien parler et quand elles ont fini, je leur demande, mais finalement, vous voulez supprimer la prostitution, mais quel avenir vous donnez, quelle possibilité vous donnez aux filles d'en sortir? C'est pas le tout d'abolir. Elles font quoi, les filles? Elles vont aller braquer les petits commerçants? Elles vont rentrer dans une marginalité encore beaucoup plus grande? Donc, offrez d'abord quelque chose, la possibilité de sortir, et après, vous serez abolitionniste. Moi, personnellement, Je me suis trouvé une fois à Toulouse, dans lequel j'ai mis en place vraiment des abolitionnistes qui étaient vraiment très virulentes. Et quand elles ont fini de parler, je leur ai dit, mais combien parmi vous ici pourraient me dire qui a élevé, a recueilli un enfant, ouais. Un migrant en plus. Il n'y avait personne. Oui. J'ai dit, ben voilà, moi je suis une prostituée et j'ai recueilli un enfant. Donc vous viendrez me faire la morale quand vous aurez fait un minimum.
Bien entendu, on n'est pas cloisonné à une seule identité. Mais alors, donc du coup, la DTS, aujourd'hui, elle a combien de personnes qui la composent?
Alors, nous sommes à peu près entre 35 et 40 personnes. Et on a eu la chance de rencontrer justement Libre Radio. Et finalement, nous sommes devenus membres de Libre Radio, la DTS, comme Libre Radio, ils sont venus membres de la DTS. Ouais. Voilà. Et chez nous, ce n'est pas tellement la
quantité. Vous avez des hommes aussi?
Alors, ce qui différencie la DTS par rapport à beaucoup d'autres associations, c'est que la DTS est composée de travailleuses du sexe en activité, des dames qui sont sorties de la prostitution, vu leur âge ou bien le changement de métier. Nous avons des clients. Nous sommes, je crois, la seule association qui compte des clients parmi ses membres. Mm-hmm. Et personnellement, moi, je trouve que c'est assez extraordinaire. Justement, on est à une époque où c'est la pression financière qui est, à l'heure actuelle, très difficile, qui influence sur le prix et sur les pratiques sexuelles. Mm-hmm. Donc nous pensons qu'il y aurait besoin d'avoir une structure sur laquelle on arrive à faire comprendre aux clients que c'est de par son financement et de par ses demandes de respecter les travailleurs du sexe et de justement de ne pas propager le sida.
Donc votre mission, c'est d'abord de faire connaître le travail du sexe comme un métier choisi et
libre.
Et surtout bien pratiqué, voilà.
Voilà, bien
c'est
pratiqué.
Votre mission, voilà. À la DTS. Voilà.
Donc nous ne sommes pas dans un rôle de distribuer des préservatifs, de prendre en main certaines travailleuses du sexe pour faire leurs impôts et autres, mais justement ça, il y a une structure, c'est Aspasi qui peut s'en occuper, et la DTS, nous avons tout à fait une autre structure.
Par rapport au voisinage, les problèmes de voisinage dans les petits salons, comment peut-on faire comprendre aux voisins que le fait d'avoir une prostituée à côté de soi, de sur son palier ne dérange en aucun cas si ça se passe correctement, bien sûr. Quel est le message à faire passer de ce côté-là?
Ben, le message à faire passer, c'est déjà auprès des travailleurs du sexe qui vont maintenant s'inscrire auprès d'une régie pour avoir un appartement. Et là, justement, il faut aussi que les travailleurs du sexe se rendent compte qu'on doit aussi respecter les autres personnes qui ont d'autres métiers. Et à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi, si tout se passe calmement, si tout se passe dans les règles de respect, je ne vois pas pourquoi une couturière ou un architecte où une coiffeuse peut avoir un appartement dans un immeuble, ça ne dérange pas. Et pourquoi que le travail du sexe dérangerait? Pour tout autant qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de scandale, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas pratiquer la prostitution en appartement libre.
Et je pense que on va donner la... Le mot de la fin, ou tu aurais encore des questions
Non, on est juste à côté de l'exposition, il y a encore plein de gens qui viennent voir l'exposition.
D'accord.
À sa clôture, donc j'espère que les gens ont l'occasion de voir le travail de Malika.
Oui.
Sur Claudette, parce que c'est vraiment très beau, et en effet, c'est un regard très ouvert, humain, humaniste. sur le travail et sur surtout une personne.
Et je pense qu'on peut encore remercier Malika, Claudette, David, qui a fait un travail extraordinaire.
Et qui fait partie du comité maintenant.
Et qui maintenant fait partie du comité. Et puis en même temps, on peut remercier aussi les tenants de ces lieux, qui sont fantastiques.
Rue des Signoles.
À la rue des Signoles, à Genève.
Personnellement, je voudrais remercier Claire de nous avoir ouvert les portes. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous reviendrons au bol.
Libre Radio Noctambule. Au devers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages, se dissimulent brasier, tumulte et sédition. Libre Radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org